que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste, il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre, un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Amen. Mes chers frères et sœurs, je crois que nul d'entre nous ne me contredira quand j'affirme ce soir que nous traversons une période qui est très difficile dans le monde. C'est un temps très critique et nous voyons effectivement comment le diable déploie des efforts considérables pour plonger l'humanité dans l'angoisse et dans la détresse. Et quand je lis ce psaume 11, qui est un psaume écrit par David, je m'aperçois que cet homme traverse lui-même un moment qui est extrêmement difficile dans sa propre vie. Je prends à témoin les paroles qu'il prononce à partir du verset 2. Nous voyons ceci écrit, « Les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. » Et cet homme entend des conseils qui lui sont donnés par certaines personnes de son entourage et qui lui disent simplement ceci, « Fuis, fuis dans vos montagnes comme un oiseau. » Et ceux qui semblent être inquiets, ce sont ses conseillers qui lui parlent de cette manière-là. Mais lui est dans un repos complet, il est dans une tranquillité totale, il connaît une paix merveilleuse et il va montrer au travers de psaumes la raison pour laquelle, eh bien, malgré ce qu'il connaît comme tribulation, comme difficulté, dont il ne parle pas précisément dans ce passage, on devine simplement qu'il traverse une période critique, il va donner les raisons pour lesquelles il reste dans la paix et il est plein de confiance. Et au verset premier de ce psaume, il dit « C'est en l'Éternel que je cherche un refuge ». J'ai lu dans une autre traduction, la traduction Darby, et dans cette traduction-là, il est dit « Je me suis confié en l'Éternel ». Pourquoi dites-vous à mon âme, oiseau, envole-toi vers notre montagne? Il est surpris d'entendre qu'on lui donne de tels conseils, parce que finalement, lui, il a trouvé un repos auprès de son Dieu et il a placé sa confiance totalement en l'Éternel qui est pour lui comme un refuge et une haute retraite. Et bien sûr, s'il considère que Dieu est pour lui un refuge et une haute retraite, c'est parce qu'il en a eu la révélation au travers de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. S'il est capable d'avoir une telle foi et de manifester une telle confiance, c'est tout simplement parce qu'il se repose sur ce que Dieu dit et aussi sur ce que Dieu est. Et quand nous entendons la voix de Dieu au travers de la parole du Seigneur, alors toute crainte, toute frayeur peut disparaître de notre vie et nous pouvons expérimenter une tranquillité qui dépasse l'imagination d'un être humain. Et c'est vrai que le Seigneur fait la promesse de nous maintenir dans une paix ineffable, même lorsque nous sommes en train de traverser des tribulations ou des moments qui sont particulièrement difficiles. Et c'est la raison pour laquelle notre intérêt à chacun d'entre nous, c'est de toujours demander au Seigneur que par sa grâce et que par le moyen de son esprit, nous soyons capables d'entendre la voix de Dieu nous parler. Nous savons tous que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand nous lisons la parole de Dieu, il est possible, quand nous sommes sous l'onction du Saint-Esprit, d'avoir cette audition de la parole de Dieu qui se fait entendre au plus profond de nous-mêmes. Et alors même que la parole d'un être humain ne peut pas nous apporter ni la consolation, ni la paix dont nous avons besoin, lorsque Dieu parle par son esprit, il y a un miracle qui s'accomplit à l'intérieur de nous-mêmes. Et nous sommes comme transportés au-dessus des difficultés, au-dessus des épreuves, et l'inquiétude fait place à un esprit de louange et d'adoration. Vous remarquerez que David a écrit ce psaume et il est dit au chef des chantres. En réalité, c'est donc un cantique, un chant qu'il adresse à Dieu, parce que la confiance qu'il a en Dieu est telle qu'il ne peut faire autrement que d'exprimer sa reconnaissance au travers d'un chant qu'il fait monter vers son Dieu. Et d'ailleurs, nous le savons, dans le temple, ce sont ces psaumes-là que l'on chantait à la gloire de Dieu. Mais non seulement il avait entendu la voix de Dieu qui pouvait le tranquilliser, qui pouvait l'apaiser, mais David a aussi une révélation qu'il explique, par exemple, au verset 4 de ce psaume, où il dit « L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, et ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. » Cet homme, David, ne peut pas connaître cette inquiétude que les autres ont dans son entourage quand ils lui disent de partir, parce que il a confiance en Dieu, mais en même temps, il a la vision de ce qui est dans le ciel. Et ce qu'il y a dans le ciel, il nous l'explique, il le voit, c'est un trône qui est dans le saint temple de l'Éternel, et ce trône est élevé, et il n'est pas vacant, il n'est pas inoccupé, il y a le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui se trouve sur ce trône-là. Alors, vous savez, mes frères et sœurs, il y a bien des trônes qui peuvent vaciller ici-bas sur la terre. Il y a bien des trônes qui peuvent être vacants. Mais le trône de Dieu est dans le ciel. Il est au-dessus, je dirais, de l'atteinte des hommes. Aucun être humain ne peut atteindre le trône de Dieu qui est dans le ciel. Et au travers de ce verset, nous pouvons affirmer, Dieu est dans le ciel, il est sur son trône et il règne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a tout sous son contrôle. Vous savez, vous et moi, ces derniers temps, nous pouvons être troublés en écoutant la voix des médias. Et j'ai entendu ici aussi des personnes à juste titre prier pour nos frères, par exemple ukrainiens, qui traversent des moments extrêmement difficiles en ce moment. Et on a raison d'invoquer le nom en leur faveur. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que les desseins éternels de Dieu ne pourront jamais être changés malgré tous les efforts des hommes pour essayer d'anéantir le plan de Dieu. Le plan de Dieu, il s'exécutera malgré les efforts des hommes pour renverser les projets éternels. C'est vrai que nous connaissons dans ce monde un renversement de fondements. Il y a les fondements politiques, il y a les fondements moraux, il y a des fondements religieux qui sont renversés. Et vous êtes témoin de ces choses parce que tous les jours, cela est placé devant nous. Les fondements religieux, eh bien, nous nous en apercevons parce que au nom de la religion, il y a des choses épouvantables qui sont accomplies sur toute la surface de la terre. Les fondements moraux sont renversés. Nous n'avons qu'à écouter la voix des médias et on s'aperçoit comment ce que nous appelons bien est considéré comme mal par les gens de ce monde et comment ce que nous savons être mal est considéré comme bien par les gens de ce monde. Il y a un renversement de certaines choses. Et la question est posée, le juste, que fera-t-il dans ces moments-là? Ça ne veut pas dire qu'il n'a rien à faire. Mais justement, nous avons un exemple, un témoignage au travers de David. Il s'est confié en Dieu. Que pouvons-nous faire, mes frères et sœurs, sinon que de nous confier en Dieu? Parce que celui qui règne sur ce trône-là, il est dans les cieux, il est au-dessus de toute chose et dans un psaume, qui est le psaume 103, et au verset 19, il est dit que son règne s'étend sur toute chose. Et dans le psaume 75, il est dit « Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre ». Parfois, nous sommes perplexes devant certaines situations et nous ne comprenons pas pourquoi Dieu n'intervient-il pas? Il y a dans les psaumes précédents et notamment dans le psaume 10 une question qui est posée. Je vous lis cela au verset premier. Il est dit « Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage et méprise l'Éternel. » Alors, évidemment, je comprends que le psalmiste dise « Pourquoi te tiens-tu éloigné ?» On a l'impression des fois, devant certaines circonstances, qu'il y a une forme d'injustice. Et on a tendance à dire « Mais c'est quand même pas normal que telle nation se soulève de cette manière-là contre telle autre nation. » Et nous disons, pourquoi Dieu n'intervient-il pas? Eh bien, écoutez, mes frères et sœurs, la réponse ne se trouvera pas dans ma bouche ce soir. Sinon que je voudrais simplement insister sur ce fait pour vous dire, Dieu a le contrôle de tout. Il ne se trompe pas. Il sait ce qu'il fait. Tout est dans sa main, il élève qui il veut, il abaisse qui il veut, et au travers des circonstances que nous sommes en train de traverser, vous savez ce que le Seigneur est en train de nous dire? Il est en train de nous dire, levez les yeux, car je viens bientôt. Et nous avons là juste un avant-goût de ce qui va se passer très bientôt. Mais avant, nous devons connaître un sort qui est bien heureux. Et je vais essayer de vous expliquer cela. C'est vrai que lorsqu'on considère les circonstances que traverse le monde, on pourrait se dire que nous sommes comme au bord de ce que certains appellent la troisième guerre mondiale. Et effectivement, on craint tout cela. Il suffit, n'est-ce pas, on peut le constater, de n'être quelque peu insensé pour que le monde soit mis à feu et à sang et que tout le monde soit plongé dans une grande souffrance. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que la parole de Dieu nous dit qu'avant que n'arrivent ces choses terribles, c'est-à-dire une sorte d'opposition de beaucoup de nations contre un petit peuple qui est le peuple d'Israël, avant que cela n'arrive, eh bien, l'Église, elle doit être enlevée dans le ciel. Je voudrais vous parler du retour du Seigneur, pour qu'il n'y ait pas de confusion dans notre esprit. Voyez-vous, le retour du Seigneur se fait dans deux phases bien particulières. En tous les cas, pour moi, c'est une conviction que je désire partager avec chacun d'entre vous. La première phase, c'est l'Église qui va aller rejoindre son Seigneur. Mais écoutez bien, quand Jésus va revenir pour chercher son Église, il ne met pas les pieds sur la terre. Il vient dans les cieux. Et la Bible dit que l'Église, à ce moment-là, sera attirée à lui, du moins tous ceux qui sont nés de nouveau et qui participent à sa nature divine. J'ai souvent utilisé cette illustration que je vais partager encore avec vous. Vous savez, de la même manière qu'un aimant est capable d'attirer la limaille de fer, eh bien, Christ va attirer tous ceux qui sont devenus participants de sa nature divine. Et là, nous allons connaître un bonheur évident, effectif, dans la présence du Seigneur. Et nous allons participer à ce que la Bible appelle par ailleurs les noces de l'agneau. Un festin formidable nous est réservé dans le ciel. Parce que je fais partie de ceux, et ce n'est peut-être pas le point de vue de tous, mais je fais partie de ceux qui ne croient pas que l'Église va traverser ce que la Bible appelle la grande tribulation. La grande tribulation, pour moi, va commencer à partir du moment où l'Antichrist va paraître sur cette terre. Pour le moment, eh bien, il y a l'esprit de l'Antichrist qui est à l'œuvre dans le monde. Et cet esprit-là, nous le voyons par l'accroissement de l'iniquité, par l'accroissement de la méchanceté, par l'accroissement de la cruauté, par également ses déviations dans le domaine religieux. Il se cache, se déguise parfois en ange de lumière. Tout cela, nous pouvons le voir, mais c'est l'action de l'esprit de l'Antichrist. Mais un jour, il sera personnifié et là va commencer ce que la Bible appelle une grande tribulation, qui elle-même sera divisée en deux étapes. Car la première chose que va faire l'Antichrist, c'est traiter une alliance avec le peuple d'Israël. Et pendant la moitié de cette grande tribulation, qui, à mon sens, va durer 7 années, selon certains passages de l'Écriture, eh bien, il va être en harmonie avec le peuple d'Israël. Mais au bout de 3 ans et demi, il va rompre cette alliance. Il va rompre cet état-là de paix artificielle avec ce peuple et va commencer une deuxième étape terrible, terrible. Et nous ne connaissons à l'heure actuelle qu'un avant-goût de ce que sera le partage de ceux qui seront sur la terre à ce moment-là. Déjà, certains d'entre nous, en découvrant ces temps que nous vivons, disent « Mais la vie sur la terre, c'est un enfer. Avez-vous entendu parler les gens de ce monde ?» Ils disent « Mais c'est terrible, le monde est un enfer, c'est quelque chose d'épouvantable. » Mais pourtant, ce n'est rien à côté de ce temps où lorsque la digue qui retient la corruption sera ôtée, alors il y aura le débordement de la puissance du mal. Et vous savez qu'il est écrit, notamment dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, qu'il faut que celui qui retient la manifestation de l'impie, la manifestation de l'antichrist, soit enlevé. Et c'est quoi qui retient la manifestation de l'antichrist? Eh bien, tout simplement, la présence de l'Église ici-bas sur la terre. Parce que le Saint-Esprit habite dans ce temple que nous sommes, l'Église de Jésus-Christ. Et le temple du Saint-Esprit que nous sommes, eh bien, est comme un barrage, comme un frein, comme une opposition. Et on sent bien que ça craque de toutes parts. Et bientôt, le Seigneur va nous appeler à lui. Et nous allons partir. Et à partir de ce moment-là, alors, ce que nous voyons comme une sorte d'avertissement, voyez, nous voyons s'amonceler des nuées très sombres. On voit par exemple une nation qui s'élève contre une autre. Et puis déjà, eh bien, dans le monde, on sent venir cette sorte de lien qui va se créer entre certaines nations qui sont toujours du même côté et puis qui un jour vont déferler comme un fleuve immense qui va vouloir anéantir, faire disparaître le peuple d'Israël. Pourquoi cela? Parce que vraiment, l'Israël, eh bien, est quand même à la racine, je dirais, de l'Église. S'il n'y avait, la parole de Dieu dit que le salut vient des Juifs. Dans quel sens? Dans le sens que Jésus est sorti de ce peuple-là. Et il y a un plan que Dieu a établi de toute éternité pour ce peuple-là. Et ce plan doit être réalisé. Il doit être accompli. C'est la raison pour laquelle, même si nous n'approuvons pas toujours le comportement de ce peuple, l'attitude de ce peuple, nous savons néanmoins que Dieu a un plan pour lui. Et c'est en son sein qu'un jour il viendra pour régner. Mais avant qu'il vienne pour régner ici-bas sur la terre, il faut que l'Antichrist fasse ce travail qui est dénoncé par la parole de Dieu. Et c'est seulement à la fin de ce règne de l'Antichrist et au moment même où toutes les nations vont se liguer contre Israël et que Israël sera comme une souris prise à un piège, que le Seigneur va descendre avec les siens, les saints anges, et puis aussi les saints qui ont été recueillis auprès de lui. Et la Bible dit qu'il posera cette fois les pieds sur le mont des Oliviers. Et en posant ses pieds sur le mont des Oliviers, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, ce mont des Oliviers, en tous les cas, d'après un texte de l'Écriture, il va y avoir un chemin qui va être frayé par lequel le peuple trouvera une échappatoire. Mais en même temps, le Seigneur va prouver sa puissance, sa grandeur, sa force. Et ces nations rebelles qui vont s'attaquer de cette manière-là pour essayer d'anéantir le plan de Dieu, eh bien, vont être sous le coup de jugement de Dieu. Et c'est à ce moment-là que Jésus va établir aussi son règne de 1000 ans. Et savez-vous ce que dit la Bible? La Bible dit que si nous souffrons avec Christ, nous régnerons aussi avec lui. Et moi, je soupire après ce temps. C'est un temps formidable qui sera établi sur la surface de la terre. Nous vivrons avec Christ un temps vraiment glorieux, un temps précieux. C'est la promesse qui est contenue dans la parole de Dieu. Alors je comprends pourquoi David, eh bien, dans les circonstances difficiles qu'il traversait, avait cette paix, cette tranquillité dans son cœur. Et même à un moment donné, eh bien, il y a un psaume, c'est le psaume 2, qui est en rapport avec les événements que je viens de décrire, les choses qui vont se passer dans très peu de temps maintenant, parce qu'il faudrait être aveugle pour ne pas se rendre compte que nous sommes à la veille de l'accomplissement de tous ces événements-là. Et dans ce psaume 2, À un moment donné, David parle aussi de Dieu et il dit, il est sur son trône et vous savez ce qu'il dit à son sujet ? Il dit, et il rit. Il rit. Alors, on pourrait se poser la question, est-ce que Dieu se moque des êtres humains ? Il rit. Ça veut dire quoi ? Je ne crois pas, vous voyez, que Dieu puisse rire, particulièrement en ce moment, en voyant la souffrance de certaines personnes. Jamais la douleur humaine ne va faire rire le Seigneur. Jamais ce qui est une cause de douleur pour un être humain ne va faire rire le Seigneur. Il est plein de compassion, plein de miséricorde, et il aime la créature humaine. Il est toujours prêt à la défendre, à la secourir, à la soutenir. C'est la preuve que nous avons au travers de la révélation que nous avons de Dieu, au travers de la personne de son Fils bien-aimé, Jésus lui-même. Alors pourquoi il est dit qu'il rit ? Parce que il se rend compte des efforts qui sont déployés par les êtres humains pour renverser son règne, pour renverser son trône, pour également anéantir ses desseins. Et lui, il rit. Et vous remarquerez, la Bible parle de Dieu qui est assis sur le trône. Il est tranquille. Nous, nous pouvons être agités. Nous, nous pouvons être inquiets. Mais lui est tranquille et dans le fond, au travers de cette révélation de Dieu assis sur le trône et qui rit, il y a une consolation qui vient dans notre cœur. C'est comme si Dieu nous disait à chacun d'entre nous, ne tremblez pas, ce que je vous ai promis, je l'accomplirai. Ce que les hommes essaient de nier et de renverser ne pourra pas atteindre le but. Parce que le plan que j'ai établi, rien ni personne ne pourra jamais l'anéantir. Et pour nous, c'est bien de savoir que si nous sommes du côté de Dieu, alors nous pouvons affirmer avec ce qui est écrit dans la Bible, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Nous n'avons aucune crainte à avoir. Bien sûr que nous pouvons souffrir. Bien sûr, nous pouvons prier pour ceux qui traversent des moments difficiles. Bien sûr, c'est notre rôle et notre devoir d'intercéder. Mais nous ne devons pas le faire avec l'angoisse dans notre cœur, mais avec la paix ineffable que seul Dieu est capable de donner en ayant la certitude que rien ni personne n'a le pouvoir de renverser ce que Dieu a dit et d'anéantir sa parole. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Et il y a quand même ici quelque chose d'autre qui est souligné dans ce passage. Il est dit, l'Éternel qui est sur le trône, eh bien, sonde le juste. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Et il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Mais avant cela, il est dit que les regards du Seigneur se posent sur les fils de l'homme, que ses paupières sondent les fils de l'homme et qu'il sonde le juste. Pourquoi fait-il cela ? Eh bien, parce que Dieu veut voir si nous aussi, nous croyons en ce qu'il a dit, si nous aussi, nous nous reposons sur ses paroles et que nous faisons confiance à Dieu au sujet des promesses qu'il nous a faites. Voyez-vous, il regarde pas seulement aux apparences, mais il voit dans notre cœur si nous sommes certains que ce qu'il a dit, il va le faire et il va l'accomplir. Mais en même temps, eh bien, il veut que nous soyons débarrassés de tout esprit d'amertume ou un esprit de vengeance. Moi, je ne sais pas, et je le répète ici, ce que David connaissait comme circonstance qu'il était en train de traverser. Mais ici, en tous les cas, Il dit ceci, il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Et je n'ai pas pu m'empêcher, en relisant ce verset avec attention, de penser à une parole qui a été prononcée par le Seigneur, et non seulement par Jésus lui-même dans les évangiles, mais encore par l'apôtre Paul dans son épître aux Romains. Quand il y a une exhortation qui est donnée à tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu, en disant « à moi la vengeance, à moi la rétribution » et exhortant tous les hommes à ne pas être animés d'un esprit de vengeance, parce que il est dit, c'est Dieu lui-même qui fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Et vous savez que la parole de Dieu dit ceci. À un moment donné, il est dit, si vous rendez le bien pour le mal comme vous avez fait, en agissant de cette manière-là, savez-vous ce qui se passe? Bien, vous amassez des charbons ardents sur la tête de ceux qui ont agi mal à notre encontre. Et j'ai voulu quand même savoir pourquoi la parole de Dieu parle de cette manière-là. Et j'ai découvert ceci. Cette chose-là se rapporte à une ancienne coutume égyptienne selon laquelle une personne qui voulait expier publiquement une faute portait sur sa tête un récipient de charbon ardent. Et les charbons représentaient la douleur intense de sa honte et de sa culpabilité. Alors je vais vous dire comment pendant un temps j'ai interprété ce verset de l'Écriture. Et je me suis dit, eh bien, oui, je vais m'efforcer de rendre le bien pour le mal. Et je vais vous dire, si nous comptons sur nous-mêmes, nous n'y arrivons pas. Parce qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui nous rende capables de vivre et de pratiquer réellement la parole de Dieu. Quand on se trouve en face d'adversaires, d'ennemis qui n'ont qu'une seule envie, par la calomnie, par la critique acerbe, vous détruire, vous anéantir, la première sensation que l'on peut avoir, c'est de dire, eh bien, que Dieu les punisse, que Dieu puisse faire tomber sur eux, c'est comme ça que je l'ai interprété, les charbons ardents. Mais voyez-vous, c'est pas ça que Dieu veut dire au travers de sa parole. Mais il veut dire, et ça, nous avons besoin vraiment de demander au Seigneur qu'il nous accorde sa grâce. Agis bien. C'est avec le secours de Dieu qu'on peut le faire. En espérant quoi? En espérant que l'adversaire, l'ennemi, puisse, lui, comprendre au travers de la repentance le mal qu'il fait, le mal qu'il est en train de développer. Et quand on comprend le mal, quand on comprend que l'on a mal agi, il y a un sentiment de culpabilité et il y a la honte qui peut venir. Par exemple, la Bible dit au sujet des enfants d'Israël, pour le moment, qu'est-ce qu'ils ont fait avec le Fils de Dieu ? Ils ont manifesté leur haine, ils ont manifesté leur incompréhension, ils n'ont pas vu le plan de Dieu et ils l'ont conduit à la croix. Nous nous ajoutons maintenant, parce que c'est aussi vrai, c'est pas seulement eux qui l'ont conduit là, mais ce sont aussi nos péchés. Cependant, la Bible parle en ces termes et dit que lorsque Jésus va revenir et poser ses pieds sur le mont des Oliviers, que va-t-il se passer? Il est dit, eux vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Et vous voyez, ça, c'est la meilleure des vengeances. Parce qu'à partir de ce moment-là, quand ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé, ils vont être saisis par ce sentiment de repentance, de culpabilité. Et cela va les conduire sur la voie du salut et de la délivrance. Vous voyez, finalement, c'est ce que nous devrions espérer les uns et les autres. Moi, j'entends par les visites, par ce que certains peuvent rendre comme témoignage, qu'il y a de la souffrance à cause de ceci, de la souffrance à cause de cela. Il y a parfois de l'amertume dans certains cœurs à cause de certaines situations particulières. Et ça se dit pas ouvertement, mais dans le fond du cœur, on dit, eh bien, on espère que Dieu va les faire payer. Et on pense toujours qu'ils vont vraiment souffrir comme conséquence de leur attitude. Écoutez bien, c'est pas à nous espérer cela. Ce que nous devons espérer, c'est qu'ils connaissent la repentance, qu'ils connaissent la délivrance et qu'ils connaissent le salut. Vous vous rendez compte? Mon frère, pense à ceci. Si quelqu'un te fait du mal, eh bien, pense à cette grande victoire que Dieu peut remporter. Si jamais ses yeux s'ouvrent par l'action bénéfique que tu auras, et que vraiment il puisse reconnaître, et à ce moment-là, oui, c'est vrai, il y aura une certaine douleur, mais aussi pour cette personne, ce sera l'occasion de retrouver la communion avec Dieu. Et n'est-ce pas ce que nous devrions tous chercher? N'est-ce pas ce que nous devrions tous demander? Non pas le mal pour les personnes, mais le bien. Je vous l'accorde, frères et sœurs, c'est pas humain, c'est divin. Et pour que ce soit accompli dans nos vies, il faut le miracle et la puissance du Saint-Esprit. Et je vous assure, peut-être, réfléchissons bien, il y a bien souvent l'esprit de louange qui est comme enfermé en nous, notre langue et notre bouche est paralysée, empêchée de prononcer des mots de reconnaissance à Dieu. Et même, il y a une telle lourdeur, un tellement de difficultés à s'exprimer au travers de la prière. Pourquoi? Écoutez bien, moi je pense que dans de nombreux cœurs, ce qui paralyse, ce qui freine, cette sorte d'amertume, cet esprit de vengeance à peine voilé. Et il faut demander au Seigneur, délivre-nous de cela, afin que nous puissions être comme toi. Réfléchissons un instant. Frères et sœurs, si la patience de Dieu ne s'était pas exercée à notre égard, où serions-nous aujourd'hui? Où serions-nous aujourd'hui? S'il n'avait pas été patient à mon égard, je ne pourrais pas être là, sur cette estrade, en train d'apporter le conseil de Dieu. Ça serait impossible. Et je suis infiniment reconnaissant à Dieu de ce qu'il ait exercé cette patience, cette bonté à mon égard. Et je prie le Seigneur qu'il me donne la victoire pour que je puisse triompher aussi de sentiments qui ne sont pas à sa gloire. Et à partir de ce moment-là, eh bien, je crois effectivement que ce que la Bible dit ici va se réaliser, s'accomplir, et le plan de Dieu se fera. Mais de toute façon, et ça, je voudrais bien le dire de manière à ce que ça reste gravé dans nos cœurs, de toute façon, viendra un temps où Dieu jugera les choses. Et lui, il le fera avec une grande justice. Permettez-moi de vous ramener à quelque chose qui s'est passé sur la surface de la terre et qui est la plus grande des injustices. C'est la mort de Jésus sur la croix. Comment les êtres humains l'ont traité? Comment les êtres humains se sont comportés avec lui? Et je lis dans la parole de Dieu que comme un agneau muet, il n'a pas ouvert la bouche. il s'est laissé faire. Personne n'a ôté sa vie, il l'a donné de lui-même. Et il a connu une grande souffrance. Et quand je lis dans la parole de Dieu que la justice de Dieu va s'exercer, je pourrais dire, mais alors, où est la justice de Dieu là? Alors qu'un innocent meurt à la place des autres. C'est ça que nous avons du mal à comprendre. Et c'est pourtant une grande vérité. Mais un jour viendra où celui qui a été humilié de cette manière-là, abaissé de cette manière-là, sera vraiment sur le trône. Déjà Dieu a manifesté sa justice, car après avoir été abaissé de cette manière-là, il est aujourd'hui élevé à la droite du Père. Et ça, c'est la meilleure récompense qui puisse exister. Pensons à cela, mes frères et sœurs. Et ce Jésus qui a été humilié de cette manière-là, c'est celui qui vaincra l'ennemi, qui triomphera, qui règnera. C'est celui dont la gloire ne peut pas être ternie. Alors, pensons à cela. Ici-bas sur la terre et peut-être même jusqu'à la fin de notre vie, nous aurons à subir des injustices. Mais Dieu fera justice. S'il ne le fait pas ici-bas sur la terre, il le fera quand nous serons à ses côtés, en train de régner avec lui. Et la parole de Dieu dit que viendra un temps où il tirera vengeance des ennemis du peuple de Dieu. Il vaut mieux laisser faire Dieu, n'est-ce pas? Nous risquons de nous tromper. Laissons faire Dieu et demandons-lui que nous soyons animés de ses sentiments. C'est peut-être un sujet de prière très important. Que le Seigneur nous accorde sa grâce ce soir. J'aimerais que nous en fassions un sujet de prière en cette soirée, que Dieu nous délivre de tous sentiments qui ne sont pas à la gloire de son nom, qu'il nous délivre de toute amertume, qu'il nous délivre de tout ce qui peut peser sur notre cœur, qu'il nous délivre des craintes ou de l'angoisse à cause de certaines circonstances, mais que nous puissions rester les yeux fixés sur lui dans la paix en disant « Non, je ne vais pas fuir, j'ai trouvé un refuge dans le Seigneur, je place ma confiance en lui et il agira en ma faveur. » D'autre part, comme cela a été fait tout à l'heure, nous pouvons continuer à prier pour tous nos frères et sœurs qui sont plongés dans la souffrance à cause de cette guerre maintenant. Et puis, j'aimerais que nous prions aussi pour une personne qui a fait appel, justement une personne dans la ville de Marseille, une de nos sœurs qui était de passage ici pendant quelques jours.